Les 500 francs que Jules Bonneau et Octave Garnier ont récupérés de la vente des titres de la Société Générale ont fait long feu. Ils sont de nouveau à sec. Ils sont de nouveau à cran. Ils sont obligés de se planquer. Le préfet Lépine a fait tirer 2500 avis de recherche. Leurs tronches sont affichées dans tous les commissariats de la région parisienne.
« 25 mars 1912, Montgeron, 8h20. Le chauffeur et le mécanicien ont récupéré la voiture neuve à Puteaux. Ils doivent la convoyer jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la Côte d'Azur, et la remettre à son propriétaire, un colonel en retraite. Le temps est frais ce matin-là, dans la forêt de Sénart. Le chauffeur conduit sans se presser. Il y a quand même 940 km pour arriver à destination. Et qui veut voyager loin ? Ménage sa monture, comme on dit. Quelques kilomètres après la sortie de Montgeron, le chauffeur dépasse une charrette tirée par un cheval à côté duquel marche un paysan. Le chauffeur se rabat sur le côté droit de la chaussée, mais quelques centaines de mètres plus loin, il doit s'arrêter car un gros tas de cailloux barre la route, près d'une cabane de cantonniers. Un homme agite un mouchoir blanc pour signaler le danger.
Avant que le chauffeur comprenne ce qui arrive, Bonneau et Garnier surgissent du fossé dans lequel ils se planquaient. Sans un mot, Garnier ouvre le feu sur le chauffeur et le tue d'une balle au menton et d'une autre à la poitrine. Puis, il tire sur le mécanicien qui tombe à terre et ne bouge plus. Deux complices sortent de la cabane et montent dans la voiture. Comme à son habitude, Bonneau s'empare du volant et opère un demi-tour en dérapage.
Le paysan à la charrette se précipite vers les deux victimes gisant sur la route. Le chauffeur a été tué sur le coup. Le mécanicien, qui faisait semblant d'être mort, n'est que blessé à la main. Montant dans sa charrette, le paysan roule vers Montgeron, où il arrive un quart d'heure plus tard. Entrant dans la mairie, il raconte l'attaque dont il vient d'être le témoin. Le maire téléphone aussitôt au commissariat et un avis de recherche est lancé. Il est 9h du matin. Mais Bonneau et sa bande sont déjà loin. Chantilly, 10h30. Le directeur de l'agence de la Société Générale, M. Masson, sort de la banque et remonte la rue de Creil, localité où il doit se rendre pour un rendez-vous professionnel. La place de l'Hospice Condé, située dans le centre de Chantilly, est calme en milieu de matinée. M. Masson aperçoit une voiture avec plusieurs individus qui se garent, presque devant l'entrée de la banque. Bien que cela lui paraisse suspect, il continue de marcher vers son rendez-vous.
Après le braquage manqué chez le notaire de Pontoise et le foirage complet de la rue du Havre, Bonneau et sa bande n'ont plus le choix. Cette fois, ils doivent réussir leur coup. Bonneau, Garnier, Caroui et Calmin sautent de la voiture et pénètrent dans l'agence bancaire. André Soudy, un jeune anarchiste qu'ils ont recruté pour le coup, se plante devant la porte, une carabine Winchester à l'épaule, histoire de dissuader les curieux. Les quatre braqueurs se placent devant les guichets et se mettent à tirer sur les trois caissiers présents. Le premier caissier, Joseph Trinquet, est abattu de plusieurs balles. Le second caissier, Raymond Legendre, est atteint à la tête et à une jambe. Il parvient à se relever, mais est tué avant d'avoir pu accéder à la pièce réservée au personnel. Le troisième caissier, Roger Gilbert, touche à l'épaule, tombe à terre et ne bouge plus. Bonneau et Garnier enjambent les comptoirs. Le coffre-fort est ouvert. À pleine main, ils prennent 35 000 francs en billets, 10 000 francs en or et 4 000 francs en numéraire.
Alerté par les coups de feu, Monsieur Masson est revenu sur ses pas, tandis que les gens commencent à se rassembler sur la place centrale. André Soudy, l'homme à la Winchester, se met à hurler.
Dégagez ! Barrez-vous tous ! Malheur à celui qui approche !
Bono sait que dans 2 minutes, cela va être le Far West dans le centre de Chantilly. Il faut qu'il se tire en vitesse. Bono empoigne le volant et effectue un démarrage à fond de train. Il vire dans la rue de Creil, mais ça grouille déjà de monde. Un commerçant tente de placer une charrette en travers de la route. Soudy recharge sa carabine et tire dessus. Le commerçant se jette par terre. Bono tient le volant, les doigts crispés, le regard tendu vers le bout de la rue. Un employé de ferme tente lui aussi de lui barrer le chemin avec une autre charrette. Soudy tire encore. Le mec se prend une balle dans la cheville et une autre dans la cuisse. Il est hors jeu. Ils y sont presque. Bono fait une embardée et évite une voiture de livraison. Le cheval qui la tire se cabre affolé par les coups de feu. Bono appuie sur l'accélérateur. Il atteint la route reliant Chantilly à Paris. Une voie goudronnée, toute droite. Une vraie piste de vitesse. Cette fois, ils sont tirés d'affaire. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
Ce nouveau braquage provoque une tornade à la préfecture de police et une tempête à l'Assemblée nationale. Sans le vouloir, la bande à Bono a ranimé la rivalité entre le préfet Lépine et Célestin Aignon, le directeur de la Sûreté Générale, nommé en 1907 par l'ancien ministre de l'Intérieur, Georges Clémenceau. Aignon est l'homme qui a créé les fameuses Brigades du Tigre, le surnom de Clémenceau. C'est lui qui a entrepris la modernisation de la police et a compris la nécessité de lui donner des moyens modernes. Contraint de venir s'expliquer devant les députés, le ministre de l'Intérieur, Théodore Steg, en poste depuis 1 mois et demi, propose une refonte radicale de l'institution policière. D'abord, une augmentation des effectifs. Ensuite, une dotation supplémentaire en voiture et en téléphone. Sur les 92 brigades de la région parisienne, seuls 9 disposent d'un téléphone. La création d'antennes de police dans les mairies d'arrondissement est actée, avec un raccordement au réseau général. Les particuliers peuvent désormais téléphoner directement à la police. Enfin, Steg obtient une nationalisation des polices municipales qui seront chapeautées par la Sûreté Générale. Une enveloppe de 540 000 francs est votée pour le fonctionnement de cette dernière et une enveloppe de 250 000 francs pour la Sûreté parisienne.
Le fric ramassé à Chantilly permet à Bono et aux membres de sa bande de souffler un peu. Ils ont de quoi se planquer pendant quelque temps et de quoi subvenir à leurs besoins. Cela ne suffit pas à ramener l'optimisme au sein de la bande. Jeudi 28 mars 1912, région parisienne. Ils ne nous laisseront pas nous en sortir vivants. Pas vrai ? Jules Bono referme Excelsior imprimé le matin même. Sa photo et celle de Carouy et Garnier occupent la première page du journal. Sur le montage photo, le canard a ajouté une chaîne qui court sur la gorge des 3 bandits placés l'un à côté de l'autre, comme si on les étranglait. Garnier regarde Bono et secoue la tête. À côté de la manchette, le titre précise qu'une nouvelle prime de 100 000 francs est offerte pour l'arrestation des bandits. Non, tu as raison, Jules. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Les deux hommes restent silencieux pendant un moment. Sans qu'ils aient besoin de rien ajouter, ils se doutent que ce braquage était leur dernier coup.
Le Le fric a une nouvelle fois délié les langues et les flics de la sûreté se sont trouvés avec plus d'indices qu'il en avait besoin. Mobilisant tout le personnel disponible, le préfet Lépine et le directeur de la police judiciaire, Xavier Guichard, obtiennent des renseignements précieux. Ils commencent par coffrer René Vallée, un serrurier proche de la bande, puis David Belloni, celui qui a tenté d'écouler les titres de la Société Générale. Les flics parviennent à la théorie que les bandits se sont servis des locaux du journal L'Anarchie pour organiser des réunions secrètes. Ils ont aussi bénéficié de la complicité de membres du journal. Rirette Maître Jean et Victor Kilbatchich, le directeur de la publication. Mais cela ne sont que des complices. La première grosse prise intervient quelques jours plus tard.
Mars 1912, Berck-sur-Mer. André Soudy, l'homme à la carabine, souffre de la tuberculose depuis qu'il est enfant. Il a eu 20 ans en février, et pourtant, il respire comme un vieillard. Soudy s'est réfugié chez une connaissance, Barthélemy Baraille, un ancien cheminot renvoyé de la Compagnie des chemins de fer du Nord pour anarchisme. Baraille possède une petite bicoque près de la plage à Berck. Soudy se dit que le grand air lui ferait du bien, même s'il sait que sa maladie est incurable. Soudy sort de chez Baraille vers 10 heures ce matin-là. Il marche jusqu'au centre du village en se retournant à chaque coin de rue. Il devine qu'il y a un truc pas net. Il se sent suivi. Il passe d'abord acheter les journaux dans un kiosque, puis il se rend à la bibliothèque et emprunte un livre. Quand il ressort, il prend la direction de la gare où il achète un ticket pour Amiens, afin d'aller retrouver un ami anarchiste.
Quand Soudy franchit la porte de la gare, le commissaire joint et ses inspecteurs l'encerclent et le plaquent contre le mur. Soudy plonge la main dans sa poche. Un inspecteur lui frappe le bras. Soudy laisse tomber un brownie contenant 9 cartouches. Le bandit plonge la main dans une autre poche et en ressort un petit flacon de cyanure qu'il tente d'avaler. L'un des policiers lui plaque le poignet au sol. Le flacon se brise.
Quand Soudy arrive à la gare du Nord, encadré par Join et le commissaire Escande, une foule s'est rassemblée.
À mort ! À mort ! À mort !
La foule s'avance vers le braqueur. Il voit que les gens ont envie de le lyncher. Lui qui ne pèse plus qu'une cinquantaine de kilos. Poussé par les policiers, il traverse le hall de la gare au pas de course. Il s'engouffre dans une voiture qui le conduit au quai des Orfèvres.
Avril 1912, Palaiseau. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. C'est la sœur d'Edouard Caroui qui révèle au commissaire Join que son frère est amoureux fou d'une femme qu'il a rencontrée en décembre au casino du Rincy. Ne pouvant rester loin d'elle trop longtemps, Caroui la retrouve dans son appartement à Juvisy. Vers 14h, des policiers de Palaiseau préviennent la sûreté que Caroui a été aperçu à la gare de Lozère, distante de 2 km, où il a acheté un billet avant de repartir. Join et ses hommes se rendent sur place et se mettent en planque autour de la gare. Caroui doit vouloir prendre le train qui fait la liaison entre Palaiseau et Juvisy, c'est certain. Les policiers attendent tout l'après-midi. Ils sont prêts de lever le camp quand Caroui entre dans la gare vers 18h15. Avant qu'il tente de faire un geste, deux inspecteurs le maîtrisent.
3 avril 1912, Paris, 19h30. Caroui savait qu'un jour, il se trouverait ligoté sur une chaise devant le chef de la PJ parisienne, Xavier Guichard. Le flic lui fait l'effet d'être un type assez ordinaire. « Si vos sbires ne m'avaient pas pris par surprise, ils ne m'auraient jamais eu », lance-t-il à Guichard. « Pourquoi portiez-vous un pistolet ?» demande le commissaire. « Il faut toujours en avoir un sur soi. Si on est arrêté, on veut être à la hauteur de sa réputation. » Caroui se penche en avant. « Vous pourriez me desserrer un peu les liens ? J'ai du mal à respirer. » à peine les liens desserrés, Karui attrape un petit paquet caché sous sa ceinture et se l'enfourre dans la bouche. « Je vais crever, » dit-il. « Je suis content. Vous ne mourrez pas vivant. »
Appelé en urgence, le légiste de la sûreté examine Karui dans le bureau de Guichard. Après quelques minutes, le médecin rend son diagnostic. « Je ne sais pas ce qu'il a avalé, mais ce n'est pas du cyanure de potassium. Sans doute une poudre quelconque. En tout cas, vous pouvez l'interroger. » Guichard fait rasseoir Karui sur sa chaise. Puis le commissaire se penche vers le bandit. « Je ne vais pas vous demander où se trouvent Bonneau et Garnier. On est en train de ratisser tout le 18e arrondissement. On ne va pas tarder à les coincer. »